Chapitre 17. Question. Voilà, c'est ça que je veux entendre, c'est ça que je suis venu vivre, de l'inspiration, pas de l'humiliation. Réponse. Tu ne subis d'humiliation que si tu crois en subir. Dieu ne te juge jamais, ne te donne aucun tort. Question. Bien des gens ne saisissent pas cette idée d'un Dieu qui dit « le bien et le mal n'existent pas » et qui proclame qu'il ne nous jugera jamais. Réponse. Eh bien, faites-vous une idée. Vous dites d'abord que je vous juge, puis vous vous fâchez parce que je ne vous juge pas. Question. Je sais, tout cela est très déroutant, nous sommes tous très complexes. Nous ne voulons pas de tes jugements, mais paradoxalement, nous les voulons. Nous ne recherchons pas tes punitions, mais nous nous sentons perdus s'il n'y en a pas. Et lorsque tu dis, comme dans les autres tomes, « je ne vous punirai jamais », nous ne pouvons pas le croire, et certains d'entre nous sont presque devenus furieux à ce propos. Car si tu ne veux ni nous juger, ni nous punir, qu'est-ce qui nous incitera à rester dans le droit chemin? Et s'il n'y a pas de justice au ciel, qui réparera toute l'injustice sur terre? Réponse. Pourquoi comptes-tu sur le ciel pour corriger ce que tu appelles l'injustice? La pluie ne tombe-t-elle pas des cieux? Question. Oui. Réponse. Et j'ajoute ceci. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Question. Mais que pensez d'eux? À moi la vengeance, dit le Seigneur. Réponse. Je n'ai jamais prononcé cette phrase. L'un d'entre vous l'a inventée et vous autres l'avez cru. La justice n'est pas une action dont vous faites l'expérience après avoir agi d'une certaine manière, mais parce que vous agissez d'une certaine manière. La justice est un acte et non une punition à cause d'un acte. Question. Le problème dans notre société consiste pour nous à rechercher la justice après qu'une injustice a été produite, au lieu de faire justice au départ. Réponse. En plein dans le mille, tu as enfoncé le clou. La justice est une action et non une réaction. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que, d'une façon ou d'une autre, j'arrange tout à la fin en imposant une forme de justice céleste dans l'au-delà. Je te dis ceci, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a que la vie, la mort n'existe pas. C'est en créant et en faisant l'expérience de votre vie, en tant qu'individu et en tant que société, que vous faites la démonstration de ce que vous croyez juste. Question. Et en cela, tu ne vois pas la race humaine comme étant très évoluée, n'est-ce pas? Je veux dire, si toute l'évolution était placée sur un terrain de football, où serions-nous? Réponse. À la ligne 12. Question. Tu plaisantes? Réponse. Non. Question. Nous sommes à la ligne 12 de l'évolution? Réponse. Et au cours du dernier siècle seulement, vous êtes passé de la ligne de 6 mètres à la ligne de 12. Question. Avons-nous une chance de jamais marquer un toucher? Réponse. Bien sûr, si vous cessez de laisser filer le ballon. Question. Nous l'avons déjà fait? Réponse. Comme je l'ai mentionné, ce n'est pas la première fois que votre civilisation se trouve aussi près du précipice. Je veux répéter cela, car il est essentiel que vous l'entendiez. À une certaine époque, sur votre planète, la technologie que vous aviez développée était beaucoup plus grande que votre capacité de l'utiliser d'une façon responsable. Vous vous approchez à nouveau du même point dans l'histoire humaine. Il est essentiel que vous compreniez ceci. Votre technologie actuelle menace de saper votre capacité de l'utiliser intelligemment. Votre société est à la veille de devenir un produit de votre technologie au lieu de l'univers. Lorsqu'une société devient un produit de sa propre technologie, elle se détruit. Question. Pourquoi donc? Peux-tu m'expliquer cela? Réponse. Oui. La question cruciale, c'est l'équilibre entre la technologie et la cosmologie de toute vie. Question. Qu'entends-tu par la cosmologie de toute vie? Réponse. En langage simple, c'est la façon dont les choses fonctionnent, le système, le processus. Il y a une méthode derrière ma folie, tu sais. Question. J'espère que ce soit le cas. Réponse. Et l'ironie est la suivante. Une fois que vous saisissez cette méthode, une fois que vous commencez à comprendre de plus en plus comment l'univers fonctionne, vous courez un plus grand risque de provoquer une panne. Sous cet angle, l'ignorance peut être un bonheur suprême. L'univers en soi constitue une technologie. C'est la plus grande technologie. Elle fonctionne parfaitement, toute seule. Mais lorsque vous y arrivez et que vous commencez à chambarder les principes et les lois universelles, vous courez le risque d'enfreindre ces lois. Et c'est une pénalité de 40 mètres. Question. Un coup dur pour l'équipe locale? Réponse. Oui. Question. Alors, nous ne sommes pas vraiment à la hauteur? Réponse. Ce ne sera pas long. Il n'y a que vous qui puissiez déterminer si vous êtes ou non à la hauteur. Vous le ferez par vos gestes. Par exemple, vous en savez suffisamment sur l'énergie atomique, à présent, pour vous envoyer au ciel. Question. Oui, mais nous n'allons pas faire cela, nous sommes trop brillants, nous allons nous arrêter. Réponse. Vraiment ? Si vous continuez de faire proliférer vos armes de destruction massive, comme vous l'avez fait, elles tomberont bientôt entre les mains de quelqu'un qui détiendra le monde en otage, ou le détruira en essayant de le faire. Vous donnez des allumettes aux enfants, puis vous espérez qu'ils ne feront pas brûler la maison, et vous devez encore apprendre vous-même comment utiliser ces allumettes. La solution à tout cela est évidente. Enlevez les allumettes des mains des enfants, puis jetez vos propres allumettes. Question. Mais c'est trop demander à une société primitive que de se désarmer elle-même. Ainsi, le désarmement nucléaire, notre seule solution durable, semble hors de question. Nous ne pouvons même pas nous entendre sur une halte aux essais nucléaires. Nous sommes une race d'êtres singulièrement incapables de se contenir. Réponse. Et si vous ne vous tuez pas à cause de votre folie nucléaire, vous détruirez votre monde par un suicide écologique. Vous êtes en train de démanteler l'écosystème de votre planète et vous continuez d'affirmer le contraire. Comme si ce n'était pas suffisant, vous êtes en train de jouer avec la biochimie de la vie même. Par le clonage et la manipulation génétique, en ne le faisant pas avec suffisamment de soin pour que cela représente un bienfait pour votre espèce, mais en menaçant plutôt d'instaurer le plus grand désastre de tous les temps. Si vous n'êtes pas prudent, vous ferez en sorte que les menaces nucléaires et écologiques ressembleront à un jeu d'enfant. En développant des médicaments qui effectuent le travail que votre corps était censé faire, vous avez créé des virus si résistants à l'attaque qu'ils sont sur le point d'éliminer toute votre espèce. Question. Tu me fais un peu peur maintenant. Tout est-il perdu? La partie est-elle terminée? Réponse. Non, mais on en est au 4e essai avec 10 mètres encore à franchir. Il est temps de réciter un ave et le car arrière cherche des receveurs qui soient libres. Es-tu libre? Es-tu capable de recevoir ceci? Je suis le car arrière et aux dernières nouvelles, toi et moi, portons un chandail de la même couleur. Appartenons-nous encore à la même équipe? Question. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule équipe. Qui est dans l'autre équipe? Réponse. Chaque pensée qui ignore notre unité, chaque idée qui nous sépare, chaque action qui proclame que nous ne sommes pas unis. L'autre équipe n'est pas réelle, mais elle fait partie de ta réalité, car tu l'y as placée. Si vous n'êtes pas prudent, votre propre technologie, ce qui a été créé pour vous servir, vous tuera. Question. J'entends déjà certains répliquer, mais qu'est-ce qu'une personne peut faire à elle seule? Réponse. Elle peut tout d'abord laisser tomber cette histoire de « qu'est-ce qu'une personne peut faire à elle seule ?» Je te l'ai déjà dit, il y a des centaines de livres à ce sujet. Cessez de les ignorer, lisez-les, mettez-les en pratique, éveillez les autres à leur existence. Lancez une révolution, faites-en une révolution de l'évolution. Question. N'est-ce pas ce qui se passe depuis longtemps? Réponse. Oui et non. Le processus d'évolution se poursuit depuis toujours, bien sûr. Mais maintenant, il prend une nouvelle tournure. Vous êtes à un nouveau tournant. Vous êtes devenu conscient du fait que vous évoluez. Et non seulement du fait que vous évoluez, mais de votre façon d'évoluer. À présent, vous connaissez le processus d'évolution et de création de votre réalité. Auparavant, vous vous contentiez d'observer la façon dont votre espèce évoluait. Aujourd'hui, vous y participez consciemment. Un nombre sans précédent d'individus sont conscients du pouvoir de l'esprit, de leur interconnexion avec tous les aspects de la réalité et de leur identité véritable en tant qu'être spirituel. Un nombre sans précédent de gens vivent dans cet espace, appliquant des principes qui invoquent et produisent des résultats précis, les conséquences désirées et les expériences voulues. C'est vraiment une révolution de l'évolution, car à présent vous êtes en train, en nombre de plus en plus grand, de créer consciemment la qualité de votre expérience, l'expression directe de qui vous êtes vraiment et la manifestation rapide de qui vous choisissez d'être. C'est ce qui rend cette période particulièrement critique. C'est pourquoi ce moment est crucial. Pour la première fois de votre histoire actuelle, mais non pour la première fois dans l'expérience humaine, vous avez à la fois la technologie et une compréhension de son utilisation suffisante pour détruire votre monde intégralement. Vous pouvez vraiment vous pousser jusqu'à l'extinction. Question. Ce sont les arguments précis que développe Barbara Marx Hubbard dans un livre intitulé « Conscience Evolution ». Réponse : oui, c'est cela. Question : ce document d'une envergure époustouflante offre des visions merveilleuses sur la façon d'éviter les sinistres résultats des civilisations précédentes et d'instaurer véritablement le paradis sur Terre. Et tu en es sans doute l'inspirateur. Réponse : je crois que Barbara dirait que je lui ai donné un coup de main. Question : tu as déjà reconnu avoir inspiré des centaines d'écrivains, un grand nombre de messagers. Devrions-nous connaître d'autres livres ? Réponse : beaucoup trop pour les énumérer ici. Pourquoi ne pas mener ta propre recherche ? Ensuite, tu pourrais dresser une liste de ceux qui t'ont particulièrement attiré et la partager avec d'autres. Depuis le début des temps, je m'exprime par le biais d'auteurs, de poètes et de dramaturges. Depuis des siècles, je glisse ma vérité dans des paroles de chansons, sur des visages, dans des tableaux, dans des formes sculptées et dans chaque battement du cœur humain. Et je le ferai pendant des siècles à venir. Chaque personne arrive à la sagesse de la façon qui lui est la plus compréhensible, sur la voie qui lui est la plus familière. Chaque messager de Dieu tire la vérité des moments les plus simples et la partage avec une simplicité égale. Tu es ce genre de messager. À présent, va dire aux gens de vivre ensemble leur vérité la plus élevée, de partager leur sagesse entre eux, d'éprouver ensemble leur amour, car ils peuvent exister dans la paix et l'harmonie. Ainsi, votre société sera aussi élevée que celle dont nous avons déjà discuté. Question. Alors, la différence principale entre notre société et les civilisations hautement évoluées, ailleurs dans l'univers, se résume à cette idée que nous avons de la séparation ? Réponse. Oui. Le premier principe directeur d'une civilisation avancée est l'unité. La reconnaissance de l'unité et du caractère sacré de toute vie. Ainsi, ce que nous retrouvons dans toutes les sociétés avancées, c'est qu'en aucune circonstance, un être n'enlèverait la vie à un autre de sa propre espèce contre sa volonté. Question. En aucune circonstance. Réponse. Aucune. Question. Même s'il se faisait attaquer. Réponse. Une telle situation ne se produirait pas au sein de cette société ou de cette espèce. Question. Peut-être pas au sein de l'espèce, mais de l'extérieur. Réponse. Si un membre d'une espèce hautement évoluée se faisait attaquer par un autre, cela prouverait hors de tout doute que l'agresseur serait le moins évolué des deux. En effet, l'agresseur serait, essentiellement, un être primitif. Car aucun être évolué n'attaquerait personne. Question. Je vois. Réponse. La seule raison pour laquelle un membre d'une espèce en tuerait un autre qui l'attaquerait, ce serait que l'agressé oublierait qui il est vraiment. Si le premier être croyait qu'il s'agit de son corps physique, sa forme physique, il pourrait alors tuer son agresseur, car il craindrait la fin de sa propre vie. Si d'un autre côté, le premier être comprenait très bien qu'il n'est pas son corps, il ne mettrait jamais fin à l'existence physique d'un autre, car il n'aurait jamais de raison de le faire. Il déposerait tout simplement son propre corps physique et passerait à l'expérience de son être non physique. Question. Comme Obi-Wan Kenobi ? Réponse. Eh bien, exactement. Les créateurs de ce que vous appelez votre science-fiction vous mènent souvent à une vérité supérieure. Question. Je dois m'arrêter ici. Cela semble directement en désaccord avec ce qui a été écrit dans le tome 1. Réponse. De quoi s'agit-il ? Question. D'après le tome 1, lorsque quelqu'un vous inflige de mauvais traitements, il n'est pas bon de laisser ses abus se poursuivre. Et, lorsqu'on agit avec amour, il faut s'inclure soi-même parmi ce qu'on aime. Et ce livre semblait signifier « Fais tout ce qu'il faut pour mettre fin à l'attaque ». Il insinue même que la guerre était une bonne réponse à une attaque. Voici une citation précise à cet effet. « On ne peut laisser prospérer les despotes. Il faut stopper leur despotisme. » Il y est dit aussi que « Choisir d'être semblable à Dieu ne veut pas dire choisir le martyr. » Et certainement pas choisir d'être victime. Maintenant, tu avances que les êtres hautement évolués ne mettraient jamais fin à la vie physique d'un autre. Comment ces affirmations peuvent-elles être compatibles ? Réponse. Relis le contenu du tome 1, attentivement. Mes réponses y étaient toutes données et doivent toutes être comprises dans le contexte que tu as créé, le contexte de ta question. Relis ton affirmation à la page 69 du tome 1. Dans cette affirmation, tu concèdes te trouver à présent au niveau de la maîtrise. Tu reconnais que les paroles et les gestes des autres te blessent parfois. Tu demandes donc comment il vaut mieux réagir à ces expériences où tu rencontres tort et blessure. Il faut situer toutes mes réponses dans ce contexte. Tout d'abord, j'ai prédit que le jour viendra où les paroles et les gestes des autres ne te blesseront plus. Comme Obi-Wan Kenobi, tu n'éprouveras aucune blessure, même lorsque quelqu'un te tuera. Voilà le niveau de maîtrise atteint par les membres des sociétés que je décris à présent. Les êtres de ces sociétés savent très clairement qui ils sont et qui ils ne sont pas. Il est très difficile de les amener à faire l'expérience d'être blessés, de subir un tort, surtout pas en mettant leur corps physique en danger. Ils se contenteraient tout simplement de sortir de leur corps et de te laisser, si tu sentais le besoin de le blesser à ce point. Le second point évoqué dans ma réponse à ta question du tome 1, c'est que tu réagis comme tu le fais aux paroles et aux gestes des autres parce que tu as oublié qui tu es. Mais je le dis ici, cette attitude est correcte. Elle fait partie de ton processus de croissance. Elle fait partie de l'évolution. Alors, j'ai fait une affirmation très importante. Durant tout ton processus de croissance, tu devras travailler au niveau où tu te trouves déjà, celui de la compréhension, de la volonté, du souvenir. Tout ce que j'ai affirmé à ce moment doit être pris dans ce contexte. J'ai même dit à la page 70, je supposerai, pour les fins de cet exposé, que tu es encore en train de chercher à réaliser, à rendre au réel, qui tu es vraiment. Dans ce contexte d'une société d'êtres qui ne se rappellent pas qui ils sont vraiment, les réponses que je t'ai données dans le tome 1 restent valides. Dans ce livre aussi, tu ne m'as pas posé ces questions. Tu m'as demandé de décrire les sociétés hautement évoluées de l'univers. Non seulement en ce qui a trait au sujet qui nous préoccupe, mais aussi en ce qui concerne tous les autres sujets que nous couvrirons ici, il sera avantageux que tu ne considères pas ces descriptions d'autres cultures comme des critiques de la tienne. Je ne formule aucun jugement ici. Je ne vous condamne pas si vous faites les choses autrement, si vous réagissez d'une autre manière que des êtres plus évolués. Ainsi, j'ai dit que les êtres hautement évolués de l'univers ne tueraient jamais un autre être conscient uniquement parce qu'ils sont en colère. D'abord, ils ne ressentiraient pas de colère. Ensuite, ils ne mettraient fin à l'expérience physique d'aucun autre être sans sa permission. Puis, pour répondre d'une façon explicite à ta question précise, ils ne se sentiraient jamais attaqués, même de l'extérieur de leur propre société ou espèce. Car, pour se sentir attaqué, il faut avoir l'impression que quelqu'un vous prend quelque chose, votre vie, vos bien-aimés, votre liberté, votre propriété ou vos biens. Et un être hautement évolué ne ressentirait jamais cela, puisqu'il te donnerait tout simplement tout ce dont tu croirais avoir besoin, au point d'être prêt à le prendre de force, même si cela coûtait à l'être évolué sa vie physique. Car cet être évolué sait qu'il peut tout recréer à nouveau. Il le donnerait tout naturellement à un être inférieur qu'il ne saurait pas. Par conséquent, les êtres évolués ne sont pas des martyrs ni des victimes du despotisme de qui que ce soit. Mais cela va plus loin. Non seulement l'être évolué sait-il clairement qu'il peut tout recréer à nouveau, mais il sait tout aussi clairement qu'il n'a pas à le faire. Il sait avec exactitude qu'il n'a besoin de rien de cela pour être heureux ou pour survivre. Il comprend qu'il n'a besoin de rien d'extérieur à lui-même et que ce « lui-même » qu'il est n'a rien à voir avec quoi que ce soit de physique. Les êtres et les races moins évoluées ne savent pas toujours cela avec clarté. En somme, l'être hautement évolué comprend que ses agresseurs et lui ne font qu'un. Il voit les agresseurs comme une partie blessée de son soi. Sa fonction, dans ces circonstances, consiste à guérir toutes les blessures afin que le tout, en un, puisse à nouveau se connaître tel qu'il est vraiment. Donner tout ce qu'il a, ce ne serait pas plus grave que de donner une aspirine. Question. Ouh, quel concept ! Mais j'ai besoin de revenir sur quelque chose que tu as dit plus tôt, à savoir que les êtres hautement évolués, réponse, à partir de maintenant, abrégeons cette appellation en utilisant le sigle EHE. Cela évitera les longues redites à répétition. Question. Bien. Alors disons que les EHE ne mettraient jamais fin à l'expérience corporelle d'un autre être sans sa permission. Réponse. C'est juste. Question. Mais pourquoi un être donnerait-il à un autre la permission de mettre fin à sa vie physique ? Réponse. Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons. Celui-ci pourrait s'offrir en guise de nourriture, par exemple. Ou pourrait servir à quelque autre nécessité, comme de mettre fin à une guerre. Question. C'est sans doute pour cela que, même dans notre culture, certains individus ne tueraient aucun animal pour se nourrir ou se vêtir sans en demander la permission à l'esprit de cet être. Réponse. Oui. Voilà d'ailleurs comment se comportent vos Amérindiens, qui ne cueillerait même pas une fleur, un brin d'herbe ou une plante sans susciter cette communication. Toutes vos cultures indigènes font de même. Il est intéressant de constater que ce sont des tribus et des cultures que vous qualifiez pourtant de primitives. Question. Oh, veux-tu me laisser entendre que je ne peux même pas cueillir un radis sans lui demander si c'est correct? Réponse. Tu peux faire tout ce que tu choisis de faire. Tu m'as demandé ce que feraient les EHE. Question. Les Amérindiens sont donc des êtres hautement évolués? Réponse. Comme dans toutes les races et espèces, certains le sont et d'autres pas. C'est une question d'individu. En tant que culture, cependant, ils ont atteint un niveau très élevé. Les mythes culturels, qui nourrissent une grande part de leur expérience, sont très élevés. Mais vous les avez obligés à mélanger leurs mythes culturels avec les vôtres. Question. Minute. Que dis-tu là? L'homme rouge était un sauvage. C'est pour ça qu'on a dû les tuer par milliers et entasser les autres dans des territoires prisons qu'on appelle des réserves. Encore aujourd'hui, nous nous emparons de leurs sites sacrés pour les transformer en terrain de golf. Nous devons le faire. Autrement, ils pourraient honorer leurs sites sacrés, se rappeler les récits de leur culture et accomplir leurs rituels sacrés. Et nous ne pouvons permettre cela. Réponse, je vois. Question, non, vraiment. Si nous n'avions pas écrasé et tenté d'effacer leur culture, ils auraient pu influencer la nôtre. Alors, à quoi aurions-nous abouti? Nous respecterions la terre et l'air et refuserions d'empoisonner nos rivières. Où en serait alors notre industrie? La population entière se promènerait sans doute encore toute nue, sans honte, se baignerait dans les rivières, vivrait de la terre, au lieu de s'entasser dans des gratte-ciels, des copropriétés, des bungalows et d'aller travailler dans une jungle d'asphalte. Au lieu de regarder la télé, nous serions probablement en train d'écouter les enseignements de la sagesse ancienne autour d'un feu de camp. Nous n'aurions fait absolument aucun progrès. Réponse. Heureusement que vous savez ce qui vous convient.